Bonjour à tout le monde. Le titre du message aujourd'hui, trois caractéristiques de Dieu. Trois caractéristiques de Dieu. Je vous les donne tout de suite et plus tard dans le message, je préciserai. Première caractéristique de Dieu, omnipotent. Dieu est omnipotent. Deuxième caractéristique, omniprésent. Dieu est omniprésent. Et troisième caractéristique dont je vais vous parler aujourd'hui, Dieu est omniscient. Omniscient. Vous savez, c'est important et c'est fascinant de connaître de plus en plus le Dieu qui appelle actuellement un petit troupeau à le connaître, à développer une relation personnelle avec lui. Plus on avance dans le temps, plus on fait d'expérience avec lui, parce qu'on développe une relation personnelle, on lui fait confiance, on le prie, on apprend dans sa parole. Plus on développe ça, plus on le connaît. Et ce processus-là, vous savez, j'ai vraiment l'impression qu'il ne finira jamais. Même une fois que le Christ sera revenu, même une fois que nous serons transformés en êtres spirituels dans la famille de Dieu, on n'aura jamais fini de le découvrir, d'apprendre à connaître ce grand Dieu-là de plus en plus. Écoutez, c'est un Dieu infini, c'est un Dieu qui va toujours exister, mais qui a toujours existé dans le passé aussi, dont les voix sont infiniment plus élevées que nos voix, comme c'est écrit dans la Bible. Alors, ça ne me surprendrait pas qu'on n'ait jamais fini d'apprendre à le connaître, d'aller toujours plus loin dans nos rapports avec lui, même lorsque nous serons nés dans sa famille. Et c'est important de connaître Dieu. Je vais vous montrer à quel point c'est important, à quel point même votre vie éternelle en dépend. Allez dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, c'est la prière que le Christ a adressée à son Père avant de mourir. Jean chapitre 17. On va lire les versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Je fais juste une petite parenthèse ici. Si la vie éternelle doit nous être accordée en cours de route par le Christ, c'est parce que nous ne l'avons pas déjà. L'être humain n'a pas d'âme immortelle. L'être humain n'est pas éternel. Il a besoin de recevoir le don de la vie éternelle. Et ça nous sera donné totalement si nous sommes fidèles jusqu'au bout. Mais maintenant, regardez le verset 3. Et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. Or, la vie éternelle, et il va décrire ce que c'est maintenant. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, il y a un lien entre le fait de connaître vraiment Dieu et le fait de recevoir la vie éternelle. Il y a un lien entre les deux. Il faut connaître Dieu pour recevoir la vie éternelle. Il y a une première façon de connaître Dieu. Et cette façon-là, elle est accessible à tous les êtres humains qui existent. C'est par le raisonnement humain. Mais au niveau humain seulement. Tous les êtres humains peuvent savoir que l'univers ne s'est pas créé de lui-même. Il faut qu'il y ait une cause à chaque effet. Si je regarde, par exemple, l'habit que je porte, ça ne peut pas s'être fait seul. Il a fallu que quelqu'un imagine un modèle, le dessine, prenne les mesures, prenne le matériel, le confectionne, et ainsi de suite, pour que l'habit que je porte soit ce qu'il est maintenant. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il a fallu qu'il y ait un créateur de cet habit-là, un concepteur, et qu'ensuite ce soit fait. Même chose pour l'univers entier. L'esprit humain, pardon, comme il a été fait dans l'homme, a la capacité d'examiner les choses et de tirer des conclusions. Et à partir de là, on peut se rendre compte que ce vaste univers qui existe, qui est tellement frappant, toutes ces planètes-là qui sont en mouvement perpétuel, dans un cycle régulier comme la Lune, le Soleil, la Terre et ainsi de suite, qui font des cycles annuels réguliers, sans se tromper, ça a été créé et instauré par un maître horloger extrêmement puissant. Bon, ça, on peut le savoir, mais par le raisonnement humain. Je dirais que c'est la première façon initiale de connaître Dieu, par sa création. Mais c'est juste un moyen de base. Si on ne va pas plus loin, on ne va pas loin, en réalité, avec Dieu. On ne connaît pas vraiment Dieu. On imagine et on raisonne humainement en disant il faut qu'il y ait une cause, oui. Certaines personnes l'appellent la cause première, mais ils ne savent pas que c'est Dieu, ils n'ont pas de relation personnelle avec lui. Regardez ce que Paul en dit dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, et on va lire le verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Ils, les êtres humains, sont donc inexcusables de dire qu'il n'y a pas de Dieu alors que tout ce vaste univers existe et il est en fonctionnement impressionnant. Et tout est mesuré. La vie est possible, la vie humaine est possible sur Terre parce que le Soleil est à une certaine distance de la Terre. Et dès qu'il y a un changement de l'axe de la Terre à certaines saisons, viennent les hivers. Mais ça ne prend pas un gros changement. Et ensuite, la Terre se replace dans son axe et là, c'est l'été qui arrive. Mais si le Soleil était beaucoup plus loin ou beaucoup plus proche, nous serions soit dans une glacière ou soit dans une rôtissoire, pour ainsi dire. Mais tout est bien calculé parce qu'il y a un maître horloger. Alors ça, on peut le voir. On peut le voir par la simple logique humaine. En d'autres termes, par la simple logique humaine, quand on regarde cette belle horlogerie et tout ce qui existe, les superbes fleurs que vous ne pouvez pas créer, que je ne peux pas créer, on peut les dessiner, même de façon limitée, mais on ne peut pas les créer. Il a fallu qu'il y ait un créateur. Humainement, on peut réaliser qu'il doit y avoir une cause première, une source d'existence, une source de la vie. Alors, voyez-vous, par leur intelligence, les êtres humains peuvent constater que Dieu existe. Mettons ça comme ça. Les êtres humains peuvent constater que Dieu existe. Les êtres humains, par leur intelligence, peuvent discerner des choses au sujet de Dieu. Ils peuvent discerner des choses au sujet de Dieu. Si les personnes qui ne sont pas en rapport direct avec Dieu disent « Dieu existe », oui, ils peuvent voir que dans sa création, il y a de la beauté. Ils peuvent voir que Dieu aime la beauté. Ils peuvent voir que Dieu est un Dieu d'ordre. On peut déduire des choses de ça avec le raisonnement humain. Mais maintenant, je vous pose une question. Si la connaissance de Dieu, ou la connaissance, je précise, au sujet de Dieu, simplement par le raisonnement humain, elle est ce qu'elle est, est-ce qu'elle peut mener à la vie éternelle? Bonne question, hein? Je vois les sourcils qui froncent un peu. Est-ce que la connaissance de Dieu, cette connaissance de base, par le raisonnement humain, qu'on dit qu'il doit avoir une cause pour chaque effet, donc que Dieu doit exister, est-ce que ça nous conduit à la vie éternelle? En d'autres termes, je repose la question autrement. Le raisonnement humain et la logique humaine peuvent-ils mener à la vie éternelle? Peuvent-ils mener à la vie éternelle? Là, je vois que certains ont la réponse, parce qu'il y a des signes de tête qui disent non. Non, ça ne mène pas à la vie éternelle. Ça prend beaucoup plus que ça. Ça prend beaucoup plus que ça. Et on va le voir. Paul l'explique dans Romains 11. On était dans Romains 2. Allons dans Romains 11. Nous allons lire le verset 33. « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Incompréhensibles pour qui? Pour nous, si ça ne nous est pas révélé. Incompréhensibles dans le sens de impénétrables. Ses voies sont impénétrables si ça ne nous est pas révélé. Je reviens là-dessus. L'intelligence humaine, comme je l'ai expliqué, peut connaître des choses au sujet de Dieu. Mais les humains ne peuvent pas vraiment connaître Dieu en utilisant leur logique et leur sagesse humaine. Ça, c'est pas possible de vraiment connaître Dieu. Paul le dit clairement. 1 Corinthiens 1, allez juste un peu plus loin de où vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 1, et nous allons lire les versets 20 et 21. Où est le sage? Il parle de la sagesse humaine ici, là. Paul dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Avec ses raisonnements humains et tout ça. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Oh là, en tant qu'être humain, on vient de frapper un mur, dans le sens que si on se fie sur notre sagesse humaine du monde pour connaître le vrai Dieu, il dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. Sa sagesse à lui est tellement plus élevée que la nôtre. Verset 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. » Le monde, avec sa sagesse, voyez-vous, n'a pas connu Dieu. Ça répond à la question que je vous ai posée tantôt, bien clairement, à partir de la Bible. C'est qu'avec la sagesse humaine, on ne peut pas connaître Dieu. Même si des gens en parlent avec beaucoup de volubilité, citent énormément de versets, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent Dieu. Ils connaissent des choses au sujet de Dieu. Et ils peuvent répéter des choses qu'ils ont lues et penser comprendre ou interpréter à leur façon. Mais Dieu dit clairement ici, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Alors, si Dieu n'intervient pas pour nous, on ne peut pas le connaître. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a eu des personnes, sincèrement, qui ont été à l'Église pendant un certain nombre d'années, bien gentilles, mais qui n'ont jamais vraiment compris. Et à l'usure du temps, les choses ressortent, et à un moment donné, les gens ne peuvent pas continuer. Il dit, « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse à lui, de sauver les croyants. » Par quoi? Par la folie de la prédication. Et c'est pour ça que la prédication de l'Évangile n'est pas reçue par les êtres humains, n'est pas bien accueillie, parce qu'ils ne peuvent pas la comprendre. Et comme ils ne peuvent pas la comprendre, qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu ni l'Esprit de Dieu, ils trouvent que c'est une folie que de croire à l'Évangile, de croire à ce qui est écrit là. Alors que ceux qui y croient, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres ou plus intelligents, c'est parce que ça leur a été donné. Et Dieu regarde ce qu'on fait avec ce qui nous est donné. Avec ce que Dieu me donne, est-ce que j'agis bien? Est-ce que je veux lui plaire? Est-ce que je veux changer ma vie pour la conformer à ses lois? Si je fais ça, Dieu va me donner de comprendre encore davantage et de le connaître davantage. Sinon, je vais le connaître moins, je vais m'en éloigner et je risque de perdre ma route et de perdre mon salut même si j'ai été vraiment appelé. Alors, c'est fort. Alors, il faut donc que Dieu initie le processus pour donner de comprendre à quelqu'un. Il faut que Dieu attire quelqu'un au Christ, comme c'est marqué dans Jean 6, 44. C'est le Père qui prend l'initiative d'attirer une personne au Christ. Et selon la réaction de la personne, si la personne est intéressé et veut changer sa vie, Dieu lui donne davantage de connaissances par son esprit et il lui donne davantage de comprendre et l'aide à avancer. Vous savez, au cours de l'histoire humaine, les gens ont toujours cherché à comprendre le but de l'existence. C'est fascinant, c'est vrai, mais c'est une question de base. Pourquoi est-ce que j'existe et qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi qui arrive après la mort, par exemple? C'est quoi le but de l'existence de l'humanité ou de l'existence de la vie humaine? C'est des questions que les humains se sont posées depuis le début de l'humanité et ils se sont donné des réponses. Mais les seules réponses qui sont valables, on peut les trouver seulement dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui révèle les choses selon sa sagesse à lui et non pas, comme on a vu, selon notre sagesse. Au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup de scientifiques, beaucoup de grands théologiens, beaucoup de philosophes reconnus qui ont essayé de connaître Dieu, mais sans succès. Sans succès. Il y a des grands hommes de science qui ont essayé, qui ont fait beaucoup de recherches là-dessus, mais qui n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accès aux vérités spirituelles. Ils n'avaient pas accès encore. Quand ils vont revenir à la vie, ou si ceux-là sont encore en vie quand Christ va revenir, quand ils se verront offrir l'Esprit de Dieu, là, ils pourront comprendre. Mais tant et aussi longtemps que ce n'est pas fait, ils ne peuvent pas comprendre. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de nature spirituelle. Autrement, on comprend les choses de nature physique. La chimie, la physique, les mathématiques, il n'y a pas de cause sans effet, toutes ces choses-là. Mais ça, c'est de niveau humain. C'est pas de nature spirituelle. 1 Corinthiens 2, verset 14, on est là. 1 Corinthiens 2, allons plus loin, verset 14. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme à l'état initial, l'être humain, n'accepte pas les choses de l'Esprit. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Selon le raisonnement humain, ça n'a pas de sens. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si on peut juger, ou si on peut évaluer, ou si on peut comprendre les choses spirituelles seulement spirituellement, c'est qu'il faut avoir l'Esprit de ce niveau de compréhension. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? Et tant que cet esprit-là ne nous est pas donné, comme c'était le cas de vous et de moi avant que Dieu nous appelle, nous ne pouvions pas comprendre. Nous ne pouvions pas comprendre. Un autre petit bout encore plus clair dans le même 1 Corinthiens 2 que Paul explique. Versets 9 à 11. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil humain n'a point vues. Il parle des sens physiques ici. Que l'œil humain n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui l'aiment. Il les a préparées pour ceux qui l'appellent. Et si ces gens-là s'appliquent à obéir à ses lois, il leur en révèle davantage. C'est ça qui est mentionné ici. Dieu a préparé ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Parce que aimer Dieu, c'est vivre selon ses lois. Dieu nous les a révélées comment? Par l'Esprit. Pourquoi on les comprend? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, et c'est seulement par l'Esprit que Dieu nous donne qu'on peut les comprendre. C'est formidable, et on peut apprécier à ce moment-là pourquoi on comprend. Il faut faire attention, surtout pour ceux d'entre nous qui sont dans l'Église depuis très longtemps, de ne pas prendre pour acquis le fait qu'on comprend ces choses-là, comme si c'était une chose plus ou moins valable. C'est extrêmement précieux. C'est le chemin de la vie éternelle. C'est le chemin de la vie éternelle. On l'a vu au début dans la première phrase que je vous ai citée du Christ dans sa prière avant de mourir. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit de Dieu, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? C'est une formule que Paul utilise ici pour dire que les êtres humains, avec l'esprit humain qu'ils ont, qui est supérieur à l'esprit des animaux, à la vie animale, disons, parce que les animaux n'ont pas un esprit, ils ont un instinct. Mais l'esprit humain peut comprendre seulement des choses à son niveau, à lui, et non pas au niveau spirituel. Il dit, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? » Et là, il va de l'autre côté après, il dit, « De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » On revient là-dessus. C'est important qu'on suive ce raisonnement-là et qu'on voit la puissance de son esprit et qu'on voit pourquoi on comprend les choses et l'importance de connaître le chemin de la vie éternelle, c'est-à-dire de connaître le vrai Dieu, de marcher dans ses voies. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, il y a, pour tous les êtres humains, un premier niveau de connaissance possible de Dieu. C'est de connaître des choses au sujet de Dieu, à partir de la création qui est visible. Maintenant, je vous parle de ce deuxième niveau que je viens un petit peu de décrire. Deuxième niveau de connaissance de Dieu, qui est vraiment là de, non pas de connaître des choses au sujet de Dieu, mais de connaître Dieu lui-même, c'est-à-dire d'entrer en relation avec lui. Ça veut dire vivre selon ses lois. On n'est pas parfait, mais on s'applique à vivre selon les lois de Dieu. Et en faisant ça, on entre en communication avec lui, nous lui plaisons, parce qu'il veut que nous développions, en faisant ça, son caractère, pour qu'on soit prêt au retour de Christ à aider les autres êtres humains, que nous ayons la même nature que le Christ, la même façon de faire, même façon de penser, même esprit d'amour, même esprit de service. Alors, le deuxième niveau de connaissance de Dieu, ce n'est pas de connaître des choses au sujet de Dieu, c'est de connaître Dieu lui-même à travers une relation personnelle avec lui, d'imiter le Christ, d'obéir à Dieu de mieux en mieux. Et ce faisant, nous nous préparons à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Père, comme le Christ a dit tantôt. Voyez-vous, tout ça va ensemble. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. La parole de Dieu, elle est puissante, puis elle est si serrée. Quand on met ensemble ces informations-là, l'image qui en ressort nous nourrit, nous inspire puis nous encourage. 1 Jean chapitre 2, le verset 3 et le verset 4. Pourquoi je vous dis que connaître Dieu, c'est vivre selon ses lois, selon ses voies, s'efforcer de le faire au mieux possible? Regardez ce que l'apôtre Jean dit ici. 1 Jean 2, verset 3 et 4. « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. » Hey, ça c'est clair? Si nous gardons ses commandements, nous savons que nous l'avons connu. Donc, celui ou celle qui ne garde pas ses commandements ne connaît pas Dieu. Ça, c'est la partie inverse, mais c'est également vrai. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Et regardez le verset 4. Celui qui dit, j'ai connu Dieu, je connais Dieu, je peux réciter plein de versets de la Bible, ainsi de suite. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. La vérité n'est pas en lui. Cette personne-là ne comprend pas les choses spirituelles. Cette personne-là ne comprend pas les choses spirituelles. Alors, voyez-vous, il y a un lien extrêmement important entre le fait de s'appliquer à obéir aux lois de Dieu et le fait de connaître Dieu. Et ça, c'est lié au fait de marcher vers la vie éternelle. Ça, ça nous amène vraiment vers la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'on développe, en faisant ça, le caractère de Dieu dont nous aurons besoin pour servir dans le monde à venir, après que le Christ sera revenu. Ça, c'est la connaissance de Dieu qui mène à la vie éternelle. Vous pourrez aller voir le verset favori de M. Meredith. Vous pourriez le dire par cœur, j'espère, Galates 2, verset 20. Oui, voilà, Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est sur lui qu'on doit compter pour vaincre nos faiblesses, pour nous purifier, pour développer le caractère de Dieu, pour passer à travers nos difficultés et nos épreuves. C'est lui le chef de l'armée de l'Éternel, c'est notre grand frère, c'est le plus vieux de la famille. Et il est prêt à nous aider. Connaître Dieu, la connaissance de Dieu qui mène à la vie éternelle, c'est laisser vivre le Christ en nous, et même le supplier qu'il vive en nous, qu'il combatte nos combats, qu'il nous aide à comprendre ce qu'on doit comprendre, qu'il nous aide à continuer le chemin, même si certaines choses ne sont pas comprises encore. La connaissance de Dieu qui mène à la vie éternelle, c'est, comme c'est marqué dans Philippiens 2, verset 5, vous pouvez aller voir Philippiens 2, verset 5, c'est avoir en nous et développer en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On doit devenir ses imitateurs, hein? Alors, il faut développer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, sa façon de penser, sa mentalité. Et la connaissance de Dieu qui mène à la vie éternelle, c'est aussi de travailler à s'éloigner de nos faiblesses, à s'éloigner du péché et à s'éloigner de ceux qui peuvent nous amener à pécher aussi. Vous irez voir 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Donc, la connaissance de Dieu qui mène à la vie éternelle, c'est marcher selon les commandements de Dieu. Et comme vous pouvez déjà le constater, ça, c'est le plus haut niveau de connaissance de Dieu. Et c'est le niveau le plus important parce que ça implique une relation très personnelle entre vous et votre Créateur, celui qui peut vous amener à votre but, à réaliser le but ultime de votre vie, de naître dans la famille de Dieu, de recevoir la vie éternelle. Je reviens maintenant aux trois caractéristiques dont je vous ai parlé au début. Et là, je vais vous expliquer ces trois caractéristiques-là et vous allez voir l'importance que ça a même pour vous. Les trois caractéristiques, je vous le rappelle, Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Vous savez, les religions du monde, les théologiens, les grands philosophes en ont parlé beaucoup et ils en parlent beaucoup de ces caractéristiques de Dieu. Ils ont leur propre conception. Parfois, ça peut approcher de la vérité, mais souvent, c'est complètement erroné. Il y a une seule source qui peut nous donner avec assurance la définition de ces termes et qui peut nous montrer quelles sont vraiment les caractéristiques de Dieu, ces trois caractéristiques-là, mais à partir de ce que Dieu lui-même dit dans la Bible, de lui-même en ce qui concerne ces trois caractéristiques-là. Et c'est important qu'on regarde ça aujourd'hui aussi parce que s'il y a des questions qui vous sont posées là-dessus, si quelqu'un vient vous voir et dit « Vous pensez que Dieu est omnipotent? Prouvez-moi donc ça. » Ou « Vous pensez que Dieu est omniscient? » C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous seriez capable de répondre? Pas ce que vous pensez, pas votre raisonnement humain, mais ce que la Bible dit à ce sujet-là. Vous pourrez même, après ça, faire des recherches personnelles pour développer votre propre réponse à partir de la Bible. Ça va vous faire un exercice spirituel intéressant. Ça peut être l'occasion de belles études bibliques aussi. Alors, si des questions nous sont posées, on ne doit pas répondre selon ce que nous pensons, mais selon ce que la Bible déclare. Un, Dieu est omnipotent. Qu'est-ce que ça veut dire, omnipotent? Ça veut dire qu'il peut tout. C'est simple. Dieu peut tout. Omni veut dire tout. Et potent, vous avez le mot potentiel ou potentialité, qui est la capacité. Dieu a la capacité de toute chose. Dieu peut tout. Dans les textes bibliques, on voit souvent le mot correspondant à ça, qui est tout-puissant. On dit Dieu est tout-puissant. On pourrait dire Dieu est omnipotent. Il peut tout, il est tout puissant, il est omnipotent. Parfois, Dieu se présente sous le nom de « Je suis le Tout-Puissant », parce que c'est lui, ça. C'est une caractéristique qu'il a, mais c'est également lui-même. Vous irez voir dans Apocalypse 19, verset 6. Apocalypse 19, verset 6, ça décrit le moment qui n'est pas très loin devant nous, où la société actuelle va être terminée, où le Christ va revenir et où le Christ va commencer à régner sur la terre avec ses fidèles. Et regardez ce qui est écrit, Apocalypse 19, verset 6. « Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Une fois que le Christ sera redescendu sur le mont des Oliviers, comme c'est marqué dans Zacharie, là où il doit revenir, à ce moment-là, il va entrer dans son règne et il dit « Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, voyez-vous, le Dieu omnipotent, le Dieu qui peut toutes choses. Et si le royaume sera établi sur la terre, c'est parce que Dieu est Tout-Puissant. » Il a la puissance pour le faire. Il a préparé tout ce qu'il faut pour ça. Si Dieu est tout-puissant, qu'il est omnipotent, c'est parce qu'il est l'autorité suprême de tout l'univers, de toute l'histoire et de tout l'univers. C'est intéressant qu'on mette les bons mots, qu'on voit sa grandeur, sa majesté. Dieu tout-puissant, omnipotent. Dieu qui exécute sa volonté, qui accomplit son plan sur le monde. Le monde n'a pas été abandonné à lui-même. Le monde est dans une situation désastreuse et ça va aller de plus en plus mal parce que ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde du petit Dieu de ce siècle, comme on voit dans 2 Corinthiens 4:4. Satan est encore le prince de la puissance de l'air et il est encore en charge de l'univers physique de la terre. Ça lui a été confié, cette autorité lui a été confiée pour un temps par Dieu. Il le permet. Et tout ça accomplit son plan. Mais Dieu est l'autorité suprême de tout l'univers. Et quand Dieu va tracer la ligne, Satan va être enchaîné et empêché de nuire. Et là, le royaume sera établi sur la terre. Allez à Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46. Dieu est l'autorité suprême sur tout l'univers. Il accomplit son plan. Ésaïe 46, verset 10. C'est Dieu qui parle. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il est le Tout-Puissant. » Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Il peut dire ça, pourquoi? Parce qu'il est omnipotent, parce qu'il a la toute-puissance de faire arriver ce qu'il dit. Et le plan qu'il a établi sur sa création va arriver exactement comme ça a été mentionné. Ces fêtes, qui sont le symbole des grandes étapes de son plan, vont continuer de se réaliser. La prochaine, c'est la fête des trompettes, le retour de Christ. C'est tout proche et ça va se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Parce que, sous-entendu, je suis omnipotent. Je suis le Tout-Puissant. Et vous pourrez aller voir dans Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26, il est écrit en toutes lettres, à Dieu, tout est possible. On voit ça à plusieurs endroits dans la Bible. À Dieu, tout est possible. Maintenant, avant de passer à l'autre caractéristique de Dieu, je veux faire une nuance ici sur l'omnipotence de Dieu, sur sa toute-puissance. Il y a une nuance importante à faire. Dieu, regardez bien, Dieu est capable de tout faire. C'est vrai. Mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Dieu est capable de tout faire, mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Est-ce que Dieu peut pécher? Non. Dieu ne peut pas pécher. Parce que ce serait se renier lui-même. Parce que Dieu est amour et sa loi est amour. Dieu ne peut pas pécher. La loi est la manifestation de son caractère parfait. Si Dieu péchait, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas lui-même. Dieu est amour et l'amour de Dieu consiste à observer ses commandements. Mais en ce qui concerne Dieu, l'amour de Dieu, c'est être ses commandements. Dieu est justice. Ses commandements sont justes. David le dit à plusieurs reprises. Dieu est justice et ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il est. Et Dieu est vérité. Il ne peut pas aller à l'encontre de la vérité. Il est la vérité aussi. Et c'est pour ça que dans Apocalypse, où il est question de l'Église et de Philadelphie, il dit « Voici ce que dit le Saint fidèle et véritable. Véritable, celui qui a la vérité. Celui qui a la clé de David et tout ça. » Dieu ne peut pas mentir. Vous irez voir Tite 1, verset 2. Tite 1, verset 2, c'est bien écrit, Dieu ne ment pas. Et le mensonge, c'est la transgression d'un de ses commandements. Dieu ne peut pas mentir. 2 Timothée 2, verset 13, vous irez voir. Je vous laisse noter les versets. Vous pourrez refaire le cheminement du raisonnement que je vous donne. Et vous allez voir la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu pour démontrer les caractéristiques de Dieu. 2 Timothée 2, verset 13, c'est écrit, « Dieu ne peut pas se renier lui-même. » Dieu ne peut pas se renier lui-même. Alors, Dieu peut tout, oui, mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Et Dieu ne ment pas, Dieu ne transgresse pas ses lois. Dieu ne rejette pas la vérité. Deuxième caractéristique de Dieu, Dieu est omniprésent. Bon, on a appris ça, ceux qui ont fait le petit catéchisme dans les écoles lorsqu'on était jeunes, dans une grande religion du monde, on apprenait par cœur les réponses de qui est Dieu, où est Dieu, Dieu est partout. On répondait par cœur à ces choses-là. Ça nous rappelle des choses quand on travaille là-dessus. Alors, mais l'omniprésence de Dieu, c'est vrai, mais il y a des nuances à apporter. Des nuances selon la Bible, pas selon ce que moi je pense. C'est pas important ce que je pense ou ce que vous pensez, c'est ce que la Bible dit, ce que Dieu dit. Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que c'est être omniprésent? C'est être présent partout en même temps. Il y a des fois qu'on aimerait ça être omniprésent, faire plusieurs affaires en même temps, mais on ne peut pas nous autres. Mais Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que Dieu est présent partout mais en même temps. Mais il y a des nuances, je vais vous les donner tantôt. Les Écritures nous montrent comment ça s'applique à Dieu. Et je vais faire les nuances qui s'imposent absolument. Question. Allez voir dans Psaume 139. On est dans Ésaïe. Allons voir dans Psaume 139. Psaume 139. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un endroit dans l'univers, je mets ça large, là, pas juste la Terre, je vous donne la possibilité de tout l'univers, c'est encore plus grand. Est-ce qu'il y a un endroit dans l'univers où vous pourriez vous cacher de Dieu? Où Dieu ne serait pas capable de vous voir? Bonne question. Je pense que vous savez déjà la réponse. David la savait aussi, parce qu'il le mentionne ici. Psaume 139, on va commencer à lire au verset 7. David a posé exactement la question, puis il a donné la réponse. Il dit, « Où irais-je loin de ton esprit? » Il parle à Dieu. « Où est-ce que je pourrais aller loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. » Mais oui, c'est là où Dieu se trouve. « Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Tu peux venir me chercher là. » « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, loin, 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 là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Oui, donc, il n'y a pas d'endroit où on pourrait se cacher de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent. Dieu est présent partout, en même temps, au milieu de sa création. Mais d'une façon particulière, selon sa parole encore, par sa puissance. C'est par son esprit qu'il est présent partout en même temps. Ce n'est pas lui personnellement, c'est sa puissance, c'est par son esprit qu'il est présent partout en même temps. D'ailleurs, c'est écrit que c'est par son esprit qu'il soutient l'existence de toute chose. Vous voyez ça à quelques endroits dans la Bible. C'est par son esprit, par sa puissance, que Dieu maintient en existence tout ce qu'il a amené à l'existence au moment de la création. Si Dieu retirait son esprit, tout cesserait d'exister et redeviendrait néant, pour ainsi dire. Hébreux 1 et le verset 3, vous irez voir. Il soutient toute chose par la parole de sa puissance. Hébreux 1, verset 3. Il soutient toute chose par la parole de sa puissance. Colossiens 1, verset 17. Colossiens 1, verset 17. Toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste, c'est-à-dire continue d'exister en lui. Et s'il ne maintenait pas par la puissance de son esprit en existence ce qui existe, tout ce qui existe cesserait d'exister. Alors, comprenez-vous comment Dieu est omniprésent? Oui, il est omniprésent, mais par sa puissance. Lui, personnellement, n'est pas là. On sait par la Bible que le Père va venir sur la terre seulement après le bout de l'histoire, OK? Après le jugement du grand trône blanc. Là, le Père va venir sur la terre. Mais en attendant, il est dans les cieux. Et le Christ, lui, va revenir au début du millénium, tel que c'est marqué dans les textes. Donc, Dieu est omniprésent, partout présent en même temps, au milieu de sa création, mais d'une façon particulière, par sa puissance, par la puissance avec laquelle il soutient l'existence de tout ce qui existe. Vous savez, certains pensent ou enseignent à tort que Dieu est lui-même personnellement et directement partout en même temps. Ça, ça me rappelle de quoi? Parce que c'est ce que j'ai appris quand j'étais petit. Que Dieu est personnellement partout en même temps. On disait, comment ça se peut? Lorsqu'on est à une place, on ne peut pas être à deux places. On avait cette question-là à laquelle on n'avait pas de réponse. Mais il y a une réponse biblique à ça. Dieu lui-même n'est pas ici pour le moment. Mais par son esprit, il soutient tout ça. Bon. Dieu lui-même, personnellement et directement partout en même temps, c'est faux. Ce n'est pas le cas. On va le voir. Deuxièmement, certains pensent à tort que Dieu est une sorte, je dirais, de masse informe, qui n'a pas vraiment de forme. À quoi ça ressemble, Dieu? Les gens se posent la question, mais c'est clair dans la Bible. Dieu donne la description de ce qu'il est, clairement. Dieu donne la description de ce qu'il est dans la Bible. D'ailleurs, dès le début, vous allez dans Genèse 1, verset 26, pas besoin de vous y reporter, mais vous irez voir Genèse 1, verset 26, quand Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, et à notre ressemblance. Donc, nous ressemblons à qui? Nous avons une tête, des bras, des jambes, un dos, des mains. Et ça ressemble à qui? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pas difficile à voir. C'est logique même. Alors, donc, Dieu a une forme. D'accord, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Il a une forme spirituelle, mais dans sa forme spirituelle, il a des membres. Il en parle dans sa Bible clairement. En tant qu'être spirituel, Dieu a des membres, Dieu a un visage, Dieu a des mains, Dieu a un dos. Allez dans Exode 33, ça vaut la peine. Exode chapitre 33. On va voir simplement un exemple de ça. À un moment donné, Moïse a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et regardez Exode 33, versets 20 à 23. Qu'est-ce que Dieu lui répond? L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc, Dieu a un visage. OK? Il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. On sait que ce Dieu-là, qui est apparu à Moïse et par la suite à d'autres, c'était Jésus-Christ, le Dieu de l'Ancien Testament. Ce n'était pas le Père. Le Père n'est jamais venu sur la terre. L'Éternel dit, verset 21, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face tu ne pourra pas être vue. » OK? Donc, on voit que Dieu a un visage, Dieu a des mains, Dieu a un dos. Alors, mais dans sa forme spirituelle, nous en avons, mais dans la forme physique, nous sommes, pour ainsi dire, une réplique anglaise, une réplique en argile de la forme de Dieu. Alors, je reviens à ça maintenant. Certains pensent et prétendent que Dieu est lui-même personnellement et directement partout en même temps. Comment Dieu peut-il être présent partout en même temps? J'ai répondu déjà un peu, mais je précise. Par la puissance de son esprit. C'est pas lui personnellement, mais la puissance de son esprit. D'ailleurs, on a vu dans le psaume 139, le verset 7 tantôt. Qu'est-ce que David a dit quand il a posé la question? Psaume 139, verset 7, il a dit, « Où irai-je loin de ton esprit? » Loin de ton esprit. « Où irai-je loin de ton esprit? » Alors, c'est par son Saint-Esprit que Dieu a un accès absolu à sa création. Dieu a un accès absolu à sa création par la puissance de son esprit. Et c'est par son esprit que sa présence s'étend dans les moindres recoins de l'univers et qu'il soutient l'existence de tout ça. Mais Dieu lui-même, personnellement, il est où? La Bible est claire. Il est au ciel, il est sur son trône. Et regardez psaume 11, verset 4. Je vous donne ces versets-là pour que vous soyez capables de répondre aux questions s'il y en a et que vous en ayez l'assurance vous-même. Psaume chapitre 11, et on va voir le verset 4. C'est pas le seul endroit où c'est mentionné, mais je vous donne celui-ci. Psaume 11 et le verset 4. « L'Éternel est dans son Saint-Temple, dans la salle du trône, dans les cieux. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône où? Dans les cieux. Et regardez, ses yeux regardent Donc, il a des yeux. OK? C'est pour ça que nous en avons, il nous a créés à son image. L'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils des hommes. Voyez-vous? Dieu est là et il reste là jusqu'à temps que le temps soit venu pour lui de venir établir son point central sur la terre. Bien que Dieu, je vais plus loin maintenant, bien que Dieu soit omniprésent par son esprit, il y a une chose qui peut nous arriver. Lorsque Dieu nous appelle, qu'on a commencé à lui obéir et qu'il nous donne de comprendre davantage, qu'on développe la relation avec lui, qu'on rêve du monde à venir et tout ça, il faut être fidèle, il faut continuer, même si on n'est pas parfait. Et si on manque notre coup, il faut demander pardon, puis changer, puis demander son aide pour changer encore plus. Et c'est un processus. Mais voyez-vous, même si Dieu est omniprésent par son esprit, nous pouvons, même en tant qu'appelés, être séparés de lui si nous persistons à vivre dans le péché. Si nous persistons à vivre dans le péché, nous sommes séparés de Dieu. C'est clair. La Bible est très claire là-dessus. Vous irez voir Ésaïe 59 et le verset 2. Ésaïe 59, verset 2 dit ceci. « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Les crimes dont on ne se repent pas. Lorsqu'on manque notre coup, lorsque par faiblesse, ou autrement qu'on manque notre coup sur un commandement, on demande pardon, puis on travaille à ne plus répéter cette faute-là. Dieu nous pardonne. Et c'est effacé, c'est oublié. Et il nous donne l'aide pour continuer. Mais si je persiste dans ma faute en m'imaginant que Dieu va m'accepter quand même, même si je continue à pécher, je me leurre moi-même. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. À ce moment-là, si je ne me repens pas d'une faute et que je ne fais pas tout ce que j'ai à faire pour m'en débarrasser, il dit, mes crimes mettent une séparation entre moi et mon Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça va loin. Parce qu'à ce moment-là, si on agit comme ça, si on persévère, non pas dans la purification de nos fautes, mais à garder certaines fautes, on est empêché, ça nous empêche d'être écoutés par Dieu. On a beau le prier, nos prières ne dépassent pas le plafond. Elles ne sont pas reçues par Dieu. Elles sont reçues par Dieu si je vis dans une attitude de repentance que je travaille à changer pour lui plaire. Et là, je vais être sur la voie de la vie éternelle. Et d'être séparé de Dieu, je précise, ce n'est pas un lieu, c'est un état. Ce n'est pas un lieu, c'est un état séparé de Dieu. Je peux être séparé de Dieu en Chine, je peux être séparé de Dieu au Canada ou ailleurs, mais si je suis séparé de Dieu, c'est un état, ce n'est pas un lieu. Maintenant, quand on parle que nos crimes nous séparent de Dieu, c'est puissant parce que le Christ a vécu cette expérience-là de façon intense à un point tel que jamais un être humain n'aura vécu ça. Parce que juste avant de mourir, qu'est-ce qui est arrivé? À un certain moment donné, toutes les fautes que nous avons commises et toutes les fautes qui ont été commises par tous les êtres humains ont été placées sur les épaules du Christ. De sorte qu'à ce moment-là, pour un court instant, il est devenu tous les péchés de l'humanité. Et il a porté sur son dos l'amende de nos péchés. Il a payé l'amende à notre place. Et c'est pour ça qu'il a crié à ce moment-là à son Père, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pourquoi? Parce qu'il était devenu péché et que pour un court instant, le mur de séparation était tombé entre lui et son Père. Comme le mur de séparation tombe entre nous et notre Père si nous persistons à transgresser ses lois. Alors Dieu est omniprésent dans sa création par son esprit. Je pense que c'est clair. Mais il demeure personnellement dans les cieux sur son trône. C'est ce que la Bible nous montre clairement. Dernier point maintenant, dernière caractéristique, Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Qu'est-ce que c'est qu'être omniscient? Omni veut dire tout, et scient, le mot scientifique vient de là, ou science vient de là, c'est connaître tout. Si je prends une définition générale qui s'applique à Dieu, c'est être conscient de toute chose, être conscient de toute chose et les comprendre de façon complète et illimitée. Je répète pour ceux qui prennent des notes, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il est conscient de toutes choses, il les comprend de façon complète et illimitée. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. La Bible, on le sait, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme David mentionne dans Psaume 119, verset 105, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Hein? Ça dirige notre sentier, ça nous aide à comprendre davantage les choses et à connaître davantage qui est Dieu, à comprendre davantage. Et la Bible, sa parole, nous montre que Dieu perçoit toute chose et que rien ne peut lui être caché. Rien ne peut lui être caché. Absolument rien. Psaume 139. Psaume 139, s'il vous plaît. Et nous allons lire à partir du verset 1. Psaume 139, verset 1. 1 à 6. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Lui, Dieu nous connaît, par exemple. Il voit à travers vous puis à travers moi, comme nous, on verrait à travers d'un courant d'air. Il sait exactement ce qu'on pense, nos motifs, nos raisons, nos sentiments, et ainsi de suite. Éternel, tu me sondes et tu me connais. David avait une relation tellement étroite avec Dieu qu'il savait comment Dieu pensait de plus en plus. Et ça nous aide qu'il ait écrit ces choses-là pour nous. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Vous pourriez dire la même chose. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Oui. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais comment je vais approcher les choses. Tu sais comment je vais réagir. Tu me connais assez depuis les années que je vis. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres de loin mes voies. Tu connais mes motifs. Tu connais mes raisons. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Et les petits-enfants, des fois, on a la joie de les voir faire quand ils veulent nous demander quelque chose, qu'on sait qu'ils veulent avoir. Quand ils commencent à faire le tour puis à préparer le terrain, on sait ce qu'ils vont nous demander. Hein? Alors, Dieu, c'est pareil. Il dit, c'est pour ça qu'il dit ici, « La parole n'est pas sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. » Il sait où on veut en venir, même quand on va le prier. Je suis certain que ça lui fait plaisir que ce soit de même. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Et j'aime ça penser à Dieu dans ce sens-là, qu'il me prend sous son aile quand j'ai besoin de me réfugier. Et on a besoin tous, à un moment donné, d'avoir ce refuge-là, de savoir que Dieu est en charge, qu'on peut lui confier nos problèmes, nos inquiétudes, nos questions, puis qu'il prend soin de nous, puis qu'il nous donne la force. Il nous a promis, d'ailleurs, hein, qu'il n'y aurait pas aucune tentation ou aucune épreuve qui nous surviendrait, qui soit au-delà des forces humaines, et qu'avec les épreuves, il nous donnerait le moyen d'en sortir. Si on fait ce qu'il faut pour en sortir, on a un rôle à jouer, bien sûr. Mais lui, il dit, je vous donne tout ce qu'il faut pour en sortir. Alors, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets sur moi ta main. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Formidable. Alors, Dieu perçoit toute chose, et rien ne peut lui être caché. Regardez psaume 44. Psaume 44, ça vaut la peine. Psaume 44. Et on va lire le verset 21 et 22. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? OK? Lui qui connaît les secrets du cœur. Lui qui connaît les secrets du cœur. C'est fort. Ça va loin. Il nous connaît intérieurement. Mieux qu'on se connaît. Et Dieu, je vais plus loin. Dieu connaît nos intentions mieux que nous. Parfois, on a de la difficulté à connaître nos vraies intentions. On peut avoir des bonnes intentions pour quelque chose en surface, mais parfois, il y a d'autres intentions qui se mêlent à ça, qui sont pas nécessairement valables ou pas nécessairement bonnes. Et on aime à se faire à croire que ce qu'on fait, là, on a des bonnes intentions, puis on a un bon but, puis on veut y aller, que Dieu est avec nous. Il voit à travers nous, lui. Puis il voit que derrière le premier motif invoqué, il y a d'autres raisons de mon action ou de ce que je veux avoir ou de ce que je veux faire qui ne sont pas recommandables, lui, il sait. Il connaît mes intentions mieux que moi, je peux les connaître. Parce que nous, on s'amène au cinéma souvent en tant qu'être humain. On se fait croire des choses. Parfois, on veut tellement avoir une chose qu'on se convainc que c'est ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi? Parce que nous, on la désire tellement, cette chose-là, que Dieu ne peut pas être contre ça. Et là, on ne cherche pas à avoir conseil, on ne cherche pas à vérifier plus. On le veut tellement qu'on se lance directement dans cette direction-là. Tête baissée. Dieu connaît les intentions. C'est pour ça que Dieu dit « consultez, prenez conseil ». Dans plusieurs conseillers, il y a de la sagesse avant de poser certains gestes et ainsi de, ça, ainsi de suite. Dieu connaît nos intentions mieux que nous. Dieu connaît nos problèmes aussi, connaît nos faiblesses. Mieux que nous, on peut les connaître. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Et on va lire le verset 12 et 13. C'est important qu'on lise notre Bible chaque jour. Pas juste la lire, l'étudier. Prendre du temps de qualité chaque jour pour la Bible. C'est une priorité. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. C'est pour ça que quand on la mange chaque jour, quand on s'en nourrit chaque jour, elle produit quelque chose en nous. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est un miroir dans lequel on peut voir les choses telles qu'elles sont et les pensées du cœur. Regardez verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » C'est clair, hein? Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses à propos de nous, même mieux que nous savons en ce qui nous concerne. Vous savez, les êtres humains, ils perçoivent les choses comment? Vous et moi, on perçoit les choses comment? Par nos cinq sens. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris au niveau humain, c'est par nos cinq sens. Et c'est une perception et une compréhension qui est limitée. Il faut le savoir, c'est limité. La compréhension ou la connaissance par les cinq sens humains, c'est limité. Alors que de l'autre côté, si on considère Dieu, les sens de Dieu, eux, ne sont pas limités. Ils sont illimités. Pourquoi? La Bible le dit clairement. Par sa puissance. Parce que son esprit sonde tout. Son esprit sonde tout. Il n'est pas limité. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 2, verset 10, qu'on a lu tantôt. Son esprit sonde tout. Donc, Dieu est omniscient. C'est pour ça que le Christ, à un moment donné, a dit, il ne tombe pas un petit oiseau à terre, un passereau à terre, sans que Dieu le sache. Hein? Et les cheveux de votre tête sont comptés. Dieu parle de ses enfants, de ceux à qui il prend soin. Alors, il ne vous arrive rien à ceux qui veulent plaire à Dieu sans que Dieu le sache et sans que Dieu n'intervienne. Et c'est tellement encourageant. Ça vient de l'omniscience de Dieu, dans son amour, là, parce que Dieu sait toutes choses en ce qui vous concerne. Alors, on a vu aujourd'hui dans le message, donc, trois des caractéristiques de Dieu. Je dis bien trois des caractéristiques de Dieu parce que ce n'est pas les trois seules. Il y en a beaucoup d'autres. Mais trois caractéristiques importantes. Telles qu'elles sont définies, comme on a vu, dans les pages de votre Bible. Telles qu'elles sont définies par la parole de Dieu. Un, Dieu est omnipotent. C'est-à-dire que rien dans sa création ne peut échapper à son autorité. Rien dans sa création ne peut échapper à son autorité et il accomplit exactement le plan qu'il a déterminé depuis la fondation du monde. Deuxièmement, Dieu est omniprésent. Et on a vu que Dieu est omniprésent non pas personnellement, mais par son esprit. Dieu est présent partout en même temps, mais lui-même demeure sur son trône jusqu'au jour où il descendra sur la terre. Et troisièmement, on a vu que Dieu est omniscient, c'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses et il a la perception juste de toutes choses. Et vous savez, la connaissance de ces trois caractéristiques de Dieu, pour nous autres, c'est très inspirant. J'espère que ça vous a inspiré, mais c'est plus que ça. C'est extrêmement encourageant de connaître ces trois caractéristiques-là. Je vais vous dire pourquoi en terminant mon message. Vous savez à quoi on est appelé. Vous savez quel est le but de Dieu pour les êtres humains? C'est qu'à mesure que Dieu les appelle, Dieu veut qu'ils changent avec son aide pour développer son caractère, pour naître dans sa famille au moment du retour de Christ, pour être transformé en un instant si vous êtes encore en vie et pour être ressuscité à la vie éternelle si vous êtes décédé. Et à ce moment-là, on naîtra dans sa famille en tant que ses enfants à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va partager son niveau d'existence pour l'éternité. Pourquoi? On va devenir comme notre Père. On va devenir comme le Christ, le frère aîné de la famille. pour l'éternité. On va partager son niveau d'existence. Ça veut dire quoi? Et là, j'arrive au sujet de mon message aujourd'hui. Ça veut dire que nous allons avoir les mêmes caractéristiques que les trois caractéristiques que je viens de vous montrer aujourd'hui. Une incroyable puissance. Deuxièmement, un accès à l'univers entier. Troisièmement, une perception totale de toute chose. C'est tellement grandiose. Dernier verset, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3, regardez comment c'est bien décrit ce moment où je vous parle, où nous serons changés pour devenir enfants dans la famille de Dieu, devenir des êtres spirituels, ayant hérité la vie éternelle, connaissant bien Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés de nouveau encore, nous sommes simplement engendrés par son esprit. Lorsque Dieu nous a appelés, qu'on s'est repenti de nos fautes, qu'on a demandé pardon, qu'on a été baptisés, après qu'un ministre de Dieu nous a imposé les mains pour la réception du Saint-Esprit, à ce moment-là, nous sommes engendrés. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant enfants de Dieu engendrés. Le processus n'est pas terminé. Il va se terminer au moment du retour de Christ, alors que nous allons naître dans sa famille. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants engendrés de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On est encore chair et sang. On est encore des êtres humains, limités, en lutte, où on doit croître dans la grâce, dans la connaissance. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ reviendra, nous allons à ce moment-là être changés en un instant, où nous allons être ressuscités à la vie éternelle. Nous serons alors semblables à lui, semblables au Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi est-ce que nous pourrons le voir tel qu'il est à ce moment-là? Parce que nous serons de même nature, de même niveau d'existence. Et regardez le verset 3. « Quiconque a cette espérance, je dirais cette espérance merveilleuse en lui, se purifie comme lui-même est pur. » Cherchons de tout cœur le royaume de Dieu et sa justice.